Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport
oui,
direct.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce lundi 4 novembre à 20h sur Radio Campus Paris, nous recevrons Stanislas Nordet, interprète avec Audrey Bonnet de Clôture de l'amour de Pascal Rambert, qui se joue au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 11 novembre. Nous vous parlerons également en chronique de Didon et Aîné de Blancali à la Villette du 17 au 31 octobre, de Rush de Mette Ingvardsen au CND du 22 au 24 octobre, de la pièce Oiseau de Anna Nozière au Théâtre Paris-Villette du 18 octobre au 3 novembre et de Strano du Cirque Trottola, Bonaventure Gacon et Titoun à l'Azimuta Anthony du 9 au 20 octobre. Pour commencer, petite introduction, Thomas, n'est-ce pas, exactement. Un billet d'humeur sur ce que nous avons vécu dimanche dernier, 27 octobre, grande date. Chers aficionados du vivant en scène, donc, que s'est-il passé? Eh bien, une clôture. Et pas des moindres. Oh, c'est étrange ce silence. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Je parle de la pièce Clôture de l'amour vécue avec Thomas, donc ici présent, écrite et mise en scène par Pascal Rambert avec les comédiens Audrey Bonnet et Stanislas Nordet, donc au Théâtre de l'Atelier, comme nous l'avons dit. Et qui a une longévité intéressante, Thomas, parce que ça a été créé en Avignon en 2011.
C'est ça.
Ça fait donc 13 ans qu'elle tourne et elle a été traduite dans 26 éditions étrangères, autant dire la pièce de tous les records. Et de records, il en est vraiment question, hein. Ring amoureux, deux corps, scénographie poussée à l'extrême de l'épure par Daniel Jeannetot, confrontation de deux monologues d'une heure chacun. Bim ! Mais c'est bien d'une plongée dans le langage dont il est question ici. Qu'on ne s'y trompe pas, l'amour en est presque le prétexte. Au sens littéral, hein, le pré-mouvement originel, moteur premier de la mise en scène. Bah, car ici, il s'agit bien de parler théâtre, clôture de l'amour. Rambert dit que l'acteur est un sac de peau de phrases. Qu'il agit comme un comptable, qu'il se doit de rendre compte de la langue. Et force est de constater qu'en parlant de la langue, la poussant jusque dans ses retranchements les plus absolus, on touche au corps. On le révèle. Je dirais même qu'advient un corps de l'acteur comme corps sédiment, qu'on touche à un corps de l'acteur comme corps sédiment. Mais qu'est-ce que ça fait au corps de porter depuis 13 ans une rupture aussi ciselée dans les mots? Qu'est-ce que le corps emmagasine? Il aurait été intéressant de se questionner viscéralement sur ce que le mot fait au corps. Car ici, hein, je trouve qu'il subit ses corps. L'ensevelissement passif, un linceul de vocabulaire et de syntaxe habile. Mais que serait donc un corps de mots? Je vous pose la question. N'y a-t-il pas, après tout, un écueil à tout vouer à la langue? Finalement, happy end, je me suis réconciliée avec cette logorée pesante, assourdissante, car j'y consens que le manifeste est le langage et qu'il s'agit bien du sujet principal. Après, à vous de juger, noble cause ou rigorisme inflexible, je vous laisse juge. Parce que quand même le théâtre, hein, dans sa tradition, dans sa racine étymologique, pardon, théatron, hein, vraiment le lieu où l'on regarde. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Moi c'est ça que j'aimerais bien mettre un petit peu en secousse. Moi j'y ai quand même vu beaucoup des corps empoulés, empruntés à l'extrême, qui rivalisent de mimiques, d'effets de voix, de tics de mâchoire, de flexions de genoux répétées, de mains gesticulantes. Pour moi, qui trahissent un essoufflement chorégraphique, ça n'engage que moi. Est-ce que c'est consenti? Est-ce que c'est subi? Cela fait signe, malgré eux, que les acteurs, me semble-t-il, sont quelque part au bout du mot. Le corps de l'acteur est au centre quand on l'habille uniquement de mots, mais Thomas, dis-moi, ça tombe bien, t'as rencontré Stanislas Nordet, peut-être qu'on peut parler avec lui de tout ça et puis avoir des éclairages inédits sur ce...
C'est ça.
Sur tout ça.
Écoutons-le.
Le théâtre, le...
Regarde-toi, enfant. Regarde-toi, regarde ce que tu donnes, regarde ce que donne ton visage. Je ne veux pas ce visage, je ne veux pas ces larmes, ces supposées larmes. Ces larmes sont l'expression d'un désarroi philosophique. Oui, excuse-moi du peu. Tu ne pleures pas un amour perdu, pendu comme un sac à un clou. Tu pleures, ou plutôt pleures en toi, et c'est ça qu'on voit couler. La mort d'une conception débile de l'amour.
Reste tué comme un chien. Une fiction, comment as-tu osé une fiction? Comment le mot fiction a-t-il pu sortir de ta bouche? Comment fiction, ça sort de la bouche, Stan? À quel moment le mot fiction se forme dans l'encéphale supérieur? pour cheminer, oui, ça, le cheminement des choses intérieures, pour cheminer jusqu'à la bouche. Et comme une concrétion prodigieuse d'un obus malfaisant, un aérolithe débile arrivé sur ma face, fracturé, pulvérisé la maxillaire, explosé la suture frontonasale, les mandibules, l'os temporal, les lioïdes, stade de celle que tu as aimée. Comment on fait ça? Comment ça existe dans la tête? Comment, Stan? Comment toi et moi ce fut une fiction? Toi et moi ce fut une fiction? Toi et moi on était dans une fiction? Sous une cloche de verre?
Bonjour Stanislas Nordet.
Bonjour.
Merci tout d'abord de répondre à nos questions. Vous reprenez avec Audrey Bonnet au Théâtre de l'Atelier dans le 18e arrondissement de Paris, Clôture de l'amour de Pascal Rambert jusqu'au 11 novembre. Une pièce qui met en jeu sur le plateau deux amants au moment de leur rupture dans un face-à-face aux allures de combat de boxe. Cette pièce, créée à Avignon en 2011, vous n'avez jamais vraiment cessé de la jouer depuis. Il y a un mois, vous étiez même à Princeton aux États-Unis pour l'y présenter. Une longévité et un succès qui peut étonner tant le texte est âpre, ciselé, exigeant. La pièce a été jouée dans 13 pays, traduite en 26 langues. Vous sauriez expliquer ce succès ?
C'est simplement la force de l'écriture. C'est-à-dire parfois, comme ça, il y a tous les 10 ans, tous les 15 ans, une espèce de joyau comme ça, une pièce qui touche au cœur. Je pense que ce qui est la force du spectacle, c'est à la fois le fond et la forme, en fait. C'est-à-dire que le fond, c'est un truc où tout le monde se reconnaît. C'est une rupture amoureuse, c'est la fin d'une vie commune, ça se fait dans la violence. Donc ça... Tous les spectateurs se retrouvent à un moment ou à un autre, mais si c'était que ça, bah voilà, ça n'aurait aucun intérêt. Derrière ça, il y a une langue, quoi. Il y a une langue assez puissante, drôle. Je pense qu'aussi le fait que le spectateur puisse, alors c'est par expérience, hein, passer des larmes au rire, du rire aux larmes. Alors, ça fait un peu slogan publicitaire. Vous allez rire puis pleurer, etc. C'est aussi pas, ça se passe pas partout, ça se passe pas sur toutes les scènes. Et puis, je pense que, le plus modestement possible, Pascal, en écrivant la pièce pour nous d'ailleurs, a trouvé les interprètes justes. Donc il y a une espèce d'alchimie, avec, c'est un spectacle aussi sur l'art du théâtre, c'est-à-dire qu'on voit à la fois les personnages, mais on voit aussi les acteurs travailler. Donc on a, je pense, à manger un peu tout le temps. Et effectivement, quand on la répétait, on n'imaginait pas du tout qu'il se passerait ça. Hein. Dans mon souvenir, Pascal était, Rambert était directeur du théâtre de Gennevilliers. C'était programmé à Avignon, à Gennevilliers après, et puis dans un autre lieu, à Genève, au Grütli. Donc personne n'en voulait de cette pièce au départ. Et puis, bah voilà, il y a quelque chose qui s'est produit. Donc, je pense que c'est un peu lié, mais c'est surtout lié à la force de la pièce et peut-être à la rencontre avec les deux acteurs qui étaient faits pour jouer ça à ce moment-là.
Ok, oui. Il y a une complicité palpable, hein, d'ailleurs, avec Audrey Bonnet sur scène, qui, au-delà de l'écoute que lui reconnaît Rambert dans le texte, a un souffle particulier, une diction qui répond complètement à la vôtre et donne toute sa musicalité au texte. Est-ce que votre collaboration avec elle a influencé votre jeu au fil des années ?
On est des acteurs très différents dans la préparation, dans le travail, mais on se rejoint sur une chose, c'est qu'on s'appuie énormément sur la langue et sur les mots. Donc ça, c'est le point commun, je dirais. Les deux partitions sont très différentes. Hein. La mienne est une partition faite sur l'attaque. Pascal me dit tout le temps, tu dois être une flèche, tu dois être une série de flèches comme ça, qui crucifie Audrey. Audrey, quand elle répond, est dans quelque chose qui est plus... Dans une chose... oui, c'est un autre registre. Donc, ce qui est intéressant, donc, c'est apparemment deux monologues, je dis bien apparemment, c'est 50 minutes et 50 minutes ou quelque chose comme ça, mais en fait, c'est écrit comme un dialogue tout le temps. C'est-à-dire que dans toutes les 5 ou 6 phrases, j'ai quelque chose dans mon texte qui coupe Audrey qui allait dire quelque chose, et pour elle, c'est un peu la même chose. Donc, on est forcé, quand on joue, d'être entièrement avec l'autre dans l'écoute, aussi bien elle que moi. C'est-à-dire pendant les 50 minutes où je parle, je suis entièrement dans son regard, entièrement avec elle. Donc, et elle, c'est la même chose. Donc, ça fait qu'on est obligé de s'articuler l'un l'autre. Je ne sais pas tellement si on a bougé l'un par rapport à l'autre. Par contre, je pense qu'on a énormément bougé à l'intérieur. C'est-à-dire que la façon dont on a répété le spectacle, parce qu'Albert n'aime pas répéter. Donc, en fait, à la première répétition, il nous avait demandé d'apprendre la totalité du texte. On a filé le texte, comme on dit. Sans s'arrêter, après il fait quelques notes, le lendemain on refait un filage, il refait quelques notes, donc il laisse très libre et en même temps il dit juste ce qu'il veut pas, ce qui est pas juste, ce qu'on enlève, ce qu'on met dans la corbeille, quoi. Et en dehors de ça on est très très libre, donc je pense qu'on est beaucoup plus influencé par le public, en fait c'est le public qui change beaucoup la façon de travailler, parce que très paradoxalement, alors qu'on est l'œil dans l'œil pendant tout le spectacle, on n'est pas du tout face publique. Moi, j'ai rarement joué un spectacle dans ma vie où le public est aussi important. Mmh. C'est-à-dire, on sent toute l'écoute du public. Certains soirs, il y a un silence de mort. Dès le début, ça oriente la représentation à un endroit. Certains soirs, ça rit immédiatement. Ça oriente encore. Donc, c'est comme si le public était peut-être presque, paradoxalement, le personnage principal. Mais c'est aussi lié au fait que chacune des choses qu'on dit... On sait que ça touche au cœur quelque part quelqu'un dans la salle, à tous les moments de la pièce. C'est-à-dire, je crois que chacun peut se reconnaître dans une des phrases ou dans plusieurs. Donc on en est conscient. Ça ne veut pas dire qu'on joue avec, mais ça veut dire qu'on le sait. Et donc c'est paradoxalement un jeu à trois et pas simplement à deux.
Oui, il y a une variable d'ajustement qui serait peut-être un peu le public. Vous travaillez souvent avec Pascal Rambert. Il a écrit des textes spécialement pour vous. C'est un compagnonnage précieux dans ce métier. Est-ce que c'est toujours facile ? Et comment vous décrirez cette relation artistique avec lui ?
Déjà, c'est une chance incroyable d'avoir un auteur et un grand auteur qui écrit pour vous, qui vous inscrit même sur la page. Je m'appelle Stanislas, mais les personnages s'appellent Stan. Donc, c'est à la fois un privilège, c'est une responsabilité aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'écrit pas à partir de nos vies, il écrit toujours à partir de lui, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on s'appelle Stan et Audrey que c'est nos vies. Par contre, il écrit pour les acteurs que nous sommes, donc il s'amuse. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, dans Clôture de la Manche, je commence par ces 50 minutes d'attaque. Dans la pièce qu'il nous avait écrite ensuite, qui s'appelait Répétition, dans laquelle on jouait Audrey Bonnet, Emmanuel Béart, Denis Podalydès et moi, c'était moi qui terminais le spectacle. J'étais silencieux pendant 1h40 et puis je prenais la parole à toute fin. Le dernier spectacle qu'on a fait, mon absente, je suis quasiment tout le temps de dos, je parle au HF. C'est-à-dire, il s'amuse, et ça c'est formidable pour un acteur, il s'amuse à créer des variations finalement par rapport à quelques-uns des acteurs qu'il retrouve. Je pense qu'Audrey et moi, on doit être ceux qu'il retrouve le plus souvent. Donc c'est, moi je suis d'abord en toute confiance, j'ai l'impression de parler cette langue-là, donc je n'ai aucune difficulté à la comprendre au sens large du terme. C'est comme si c'était une seconde langue. J'avais eu un petit peu ça d'une autre manière avec Falk Richter. J'ai travaillé longtemps avec un metteur en scène et auteur allemand qui s'appelle Falk Richter. Et donc, je ne peux pas me plaindre. C'est extrêmement confortable. Mmh. C'est confortable à tout point de vue. Et aussi parce que Pascal s'amuse à me faire faire des choses difficiles, c'est-à-dire à me déplacer, à m'en demander... dans l'architecture, il m'a fait travailler sur un mode très beaucoup plus psychologisant que d'habitude, où je mettais mes tripes sur la table, les scènes déchirantes avec un père, etc. C'était des choses que je ne faisais pas tellement souvent au théâtre. Donc, c'est intéressant pour moi aussi parce qu'il s'amuse, il me déplace. Et en même temps, il a dans la tête, je pense, chaque acteur, pour lui, représente une forme d'entité, je ne sais pas comment dire. Moi, je suis une espèce de feu follet, comme ça, la plupart du temps. Audrey est plutôt un réceptacle de la violence des autres, etc. Enfin, il a aussi, il projette sur nous quelque chose qui n'est pas nous, ce qui est évidemment intéressant. Donc non, c'est extrêmement précieux et extrêmement rare. Me and my shadow strolling down the avenue.
me and my shadow, not a soul to tell my troubles to, and when it's 12 o'clock, we climb the stairs. We never knock because there's nobody there, just me and my shadow, all alone and feeling blue.
Est-ce que lorsqu'une pièce a une telle longévité, il n'y a pas des difficultés qui apparaissent? Je veux dire qu'entre la création et aujourd'hui, il y aura eu MeToo, par exemple, et que les moments où votre personnage demande à celui d'Audrey de se relever, de vous regarder en face alors même que vous lui assénez des coups verbaux, bah, ces moments sont d'une violence identifiée et inouïe aujourd'hui. Est-ce que cela change votre rapport au texte, votre manière de le jouer? Est-ce que la pièce prend justement une autre résonance aujourd'hui?
Absolument, c'est très juste et très particulier surtout, c'est effectivement depuis 4-5 ans. C'est-à-dire que comme c'est un spectacle sur l'art du théâtre hein, aussi, il n'y a pas de décor quasiment, il y a juste deux acteurs qui se font face, c'est une diagonale et puis au milieu du spectacle, la diagonale s'inverse. Donc on est vraiment au béaba de l'art du théâtre apparemment, donc à l'intérieur tout repose sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en fait. Et donc, il y a une théâtralité là-dedans à trouver. Et très vite, Pascal m'avait poussé à être dans une forme d'excès de violence à la création, d'être trop, c'est-à-dire de prendre la partenaire comme vraiment un punching ball. Et effectivement, aujourd'hui, alors tout fait changer, hein. La vie fait changer, oui. C'est-à-dire au moment où j'ai créé le spectacle, je venais moi-même de vivre une séparation très difficile. 10 ans plus tard, c'est l'inverse. Je suis dans une relation formidable, stable, etc. Donc tout change dans nos vies, dans nos têtes, avec ce texte qui brasse tellement de choses. Et en même temps, effectivement, la société bouge, la société change. Les guerres arrivent, oui, il y a MeToo, mais il y a Gaza aussi, etc. C'est-à-dire qu'un spectacle qui traverse le temps, évidemment, en tant qu'acteur, tous les soirs, on entend quelque chose de différent. On sait que le public entend des choses différentes. Et effectivement, quand j'avais lu la pièce la première fois, j'avais dit à Pascal, en général, il y a 75-80% de femmes dans les salles de théâtre. Je vais me faire haïr, parce que ce n'est vraiment pas le personnage aimable, on va dire, ce qui est intéressant, hein. Moi, je m'invente des raisons de le défendre et de le sauver, mais dans le genre masculinité toxique, etc., et tout ça, on peut se dire que... voilà. Donc aujourd'hui, oui, alors par exemple, il y a un moment dans le spectacle qui est très clair pour moi, quand on parle des enfants, de garder les enfants, qui est un des points les plus brûlants, je dirais, de ce qui se passe au moment de leur séparation, à la création, Pascal nous demandait chacun... puisque c'est et dans mon monologue et dans le sien, d'Audrey, d'aller vers l'autre avec l'intention de le ou de la frapper. C'était de physiquement, on ne se touche jamais dans le spectacle, hein, mais que le public sente ça. Aujourd'hui, je n'arrive plus à le faire, par exemple ça. Je ne peux pas le faire. Physiquement, je ne peux pas simuler, j'y arrive pas. Donc je fais autre chose, j'ai trouvé autre chose. Il y a un moment dans le spectacle où je viens près d'elle et où je lui dis, tout près d'elle, je vais te tuer. Voilà. Avec les mots bien sûr, mais ça évidemment je l'entends très très différemment. Du coup je trouve ça passionnant évidemment, hein. Moi je suis archi contre tous les trucs de grande cette culture et tout ça, je trouve que c'est formidable de d'entendre justement qu'est-ce qui grince, qu'est-ce qui déconne, qu'est-ce qui... et en même temps la pièce... Il n'y a aucune ambiguïté, le mec se retrouve comme une flaque, hein. C'est une pièce à la gloire de la façon dont cette femme... voilà. Mais oui, ça change énormément dans la perception du public, là, encore une fois.
Comment réussissez-vous à être toujours dans l'incarnation? Car oui, il s'agit d'une rupture amoureuse à laquelle on assiste, de deux personnages qui portent chacun les prénoms de leur interprète, hein, vous l'avez dit, et qui semblent être, comme vous, des acteurs. Mais au-delà de ces similitudes, il y a tout un dispositif qui signe le théâtre. Les enfants qui viennent interrompre le spectacle à sa césure pour réclamer le plateau et y répéter, les « ici » que vous n'arrêtez pas de dire comme pour bien signifier que l'on est sur scène, les allusions comiques à une absence de spectateurs qui sont pourtant là dans la salle comble. Et ce texte au cordeau, un vrai texte de théâtre dans le sens où il y a une corporéité, un rythme, une poésie, tout cela devrait nous amener à une certaine distanciation. Pourtant non, on est ému, on s'en vient à pleurer. Donc oui, comment réussissez-vous à incarner si bien ces émotions sur scène ?
C'est le boulot. Tout le boulot est là, c'est le travail d'acteur, c'est une bonne question, mais c'est difficile de répondre parce que bah, c'est le job, c'est-à-dire... Je pense voir bien le truc. Il y a une part énorme de technique dans le spectacle, par exemple. C'est-à-dire qu'on est à la fois très libre et en même temps, Pascal nous demande d'être dans une rythmique très particulière. Donc, ce qui tient, c'est la langue et la rythmique de la langue. Donc, elle est un garde-fou pour tout. C'est-à-dire, pour ne pas devenir larmoyant, pour ne pas devenir non plus... Pascal veut que je sois excessif, mais il ne faut pas non plus que je devienne un clown, etc. Donc, je dirais que c'est un travail de l'acteur pour moi. C'est-à-dire, c'est un mélange entre une technique parfaite et puis... L'autre part du travail de l'acteur qui est d'aller chercher en soi comment les mots résonnent, simplement, c'est-à-dire particulièrement sur un texte où, à peu de choses près, je reconnais tout. Quand je dis reconnaître, c'est-à-dire que je peux mettre une image, un souvenir, un son, une chose qui m'est arrivée, qui est arrivée à d'autres, quasiment sur chaque phrase. D'une certaine manière, c'est du gâteau. Après, c'est comment est-ce qu'on fait pas de ça, et c'est ça le travail, quelque chose de larmoyant, naturaliste, etc. Tout ça. Mais la théâtralité proposée par Pascal nous oblige à être dans cet écart-là, je dirais. Donc, et puis, il y a les types d'acteurs aussi. C'est-à-dire, je pense que Audrey et moi, peut-être Audrey parlerait différemment, mais moi, je suis un acteur qui... s'investit énormément pendant, dans la langue, puis au salut, c'est absolument fini. C'est-à-dire, il n'y a aucune trace de ce qui m'est arrivé. C'est ce qui me plaît dans ce métier-là. Donc, ça me permet d'autant plus, à l'intérieur, d'aller creuser dans des choses parfois dures, parfois violentes, parfois drôles et tout ça, et puis de m'en débarrasser comme d'un... Mais la force du texte, son exigence fait que, pour répondre le plus précisément à la question, ça nous oblige à être tout le temps en travail, sans arrêt, on ne peut pas se reposer. C'est un spectacle. Et je pense que c'est ça aussi que les gens aiment. Ils sont un peu comme quand on est au cirque et qu'on voit les acrobates, qu'on se dit qu'on se casser la gueule. Parce que, par exemple, Pascal me demande de démarrer très fort le spectacle. Et par exemple, en répétition, dans les premières répétitions, au bout de 25 minutes, j'étais claqué. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à gérer mon énergie, je donnais tout au départ, j'avais plus de force après. Donc, c'est toute une gestion des émotions, de la technique, de... Il faut avoir bien dormi la nuit d'avant, il ne faut pas avoir trop picolé, parce que sinon, voilà, ça ne marche pas.
To the wind blow.
si la pièce est une performance textuelle, on n'arrête pas de le dire, n'avez-vous pas le sentiment qu'il s'agit aussi d'une pièce chorégraphique ?
Alors, oui, bonne question. Là encore, je pense qu'une des choses essentielles que Pascal ne nous a pas dit tant de choses que ça en répétition, quand on a répété à la création, mais il nous a dit une chose à un moment donné, qui nous est apparue paradoxale au moment où il l'a formulée. Il nous a dit, c'est un spectacle de danse. Et, bon, devant les pavés de texte qu'on avait à défendre, sur le fait qu'on est quasiment immobile, voilà, qu'on ne bouge pas vraiment beaucoup, voilà, il pouvait y avoir une torsion, quoi. Mais bah non, quand on est acteur, il faut savoir entendre, en fait. C'est ça qui est toujours compliqué quand on est acteur dans le rapport avec un metteur en scène. Donc je pense que et Audrey et moi, on a su l'entendre chacun à notre manière. On s'est dit qu'il y avait quelque chose sur qu'il fallait fluidifier, libérer quelque chose dans la gestuelle, en tout cas, que tout passe par l'ensemble du corps. Et on ne sait pas d'ailleurs si Pascal n'a jamais voulu décider d'ailleurs pour le public, est-ce que lui est chorégraphe, elle est danseuse, est-ce qu'il est metteur en scène, elle est actrice. Bon, il pourrait être aussi, il pourrait travailler dans le milieu de la danse. Donc oui, il y a quelque chose de ça. Alors en même temps, il n'y a rien de véritablement chorégraphié au sens, je sais pas, on n'a pas fait venir Loïc Touzé ou Mathilde Monnier pour arranger nos mouvements, je sais pas quoi. Mais effectivement, je pense que si le spectacle a cette couleur là, c'est parce qu'il nous a lâché cette indication là et qu'on s'en est emparé à notre façon.
Oui, parce que les corps sont vraiment extrêmement présents dans cet échange. Il y a dans la salle de l'atelier énormément de rire. Alors je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais vous avez déjà dit un peu précédemment que pas forcément. Et on a l'impression presque que c'est une pièce de boulevard. Moi, c'est l'expression, moi, je vous dis, c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, j'ai envie de vous demander, mais est-ce que c'est une pièce de boulevard ? Je ne crois pas, hein, mais... Ou est-ce que c'est une pièce qui est tributaire des codes du public d'un théâtre ? Ma question, c'est qu'est-ce que ça fait de jouer cette pièce dans ce théâtre-là, le théâtre de l'atelier, avec son histoire, son cadre magnifiquement mis en valeur par la scénographie ?
Peut-être c'est aussi une pièce de boulevard. Non, mais je pense que c'est ça le bon boulevard, on pourrait dire. Non, mais je pense que c'est la force de la pièce, c'est-à-dire que justement, elle échappe un petit peu... je pense Pascal l'a écrite en réaction à beaucoup de choses qu'il voyait au théâtre, des choses trop chargées dans les décors, dans les trucs, de ne pas aller assez à l'essentiel, d'affaîtrie, de tas de choses comme ça, dans une confiance forte dans le rapport de l'acteur, du texte et du public. Donc, je pense qu'elle est généreuse, voilà. Je pense qu'elle est généreuse dans l'écriture, elle est généreuse dans ce qu'on en fait, nous, dans notre travail. Donc, elle est à même de toucher des publics très différents, pour répondre complètement. Le public du théâtre public, le public du théâtre privé, peut-être pas n'importe quel théâtre privé, on est au théâtre de l'atelier, hein, juste avant nous, il y a la Mente Anglaise, Duras, tout ça. C'est pas non plus, je sais pas, dans le métro, on a des affiches à côté de Le Cake aux Olives avec Philippe Chevalier et Bernard Mabille. Je pense que le public qui va voir Le Cake aux Olives est quand même pas le même qui va voir Clôture de l'amour. Donc, finalement, comme c'est une pièce sur l'art du théâtre et sur les fondamentaux, finalement, de qu'est-ce que c'est que le théâtre, et puis aussi cette confiance dans le fait, je pense pour Pascal, qu'on peut faire du théâtre avec rien. Pourquoi est-ce que le spectacle a énormément tourné ? C'est parce qu'il coûte rien en tournée. On met un peu de tapis de danse blanc par terre, des néons, on se met tous les deux, il n'y a pas de costume, mais c'est le même depuis 13 ans qu'on joue le spectacle. Donc c'est aussi... Moi, c'est ce que j'aime aussi dans le spectacle, c'est qu'on peut faire du théâtre avec presque rien du moment qu'on a un texte et qu'on a des acteurs qui tiennent la route. Et les réactions du public, les rires, voilà, ça dépend des soirs. Je pense aussi que les gens rient beaucoup parce qu'ils se disent c'est trop, quoi. Il y a un rire d'effroi aussi. C'est pas non plus le rire
la gaudrière
de boulevard.
Oui, c'est pas les portes qui claquent.
Vas-y, Simone, je te mets une claque sur les fesses et voilà. Le rire qui apparaît est un rire parfois, je pense aussi, qui donc, correspond à un truc de...
C'est trop. Il y a un moment donné, parfois, c'est trop. Après cette reprise, quels sont vos projets artistiques à venir ? La question en décembre au Théâtre Victor Hugo à Bagneux, je crois, et en janvier au Théâtre de la Concorde à Paris. Et il y a une mise en scène de vous à l'Odéon en mai 2025.
Pareil, et puis on va rire, là, parce que c'est fait d'eau.
C'est fait d'eau. Et c'est pas au Théâtre de Boulevard, c'est à l'Odéon. Oh là là, j'en mêle tout.
Ouais, il y a ça. Je suis en tournée aussi avec un spectacle de Heiner Müller Quartet, mis en scène par Jacques Vincey. Et oui, bah, fait d'eau. Alors la question Henri Alleg, ça c'est un spectacle que je tourne depuis un moment, qui est un spectacle que j'aime beaucoup, qui est... À partir du témoignage d'Henri Alleg sur la façon dont il était torturé par les para-français en Algérie. Henri Alleg, c'était des acteurs d'Algérie républicain et publié aux éditions de Minuit. Et Fedo, en fait, c'est parce que, en tant que metteur en scène, ça fait un bout de temps que je n'ai pas travaillé sur ce type de répertoire-là. J'ai fait de Christine Angot, Claudine Galéa, Marie Ndiaye, des sujets qui étaient un peu, on va dire, costauds, lourds, creusant des choses. Et j'avais envie de retravailler sur un autre. Je trouve que c'est très bien tout le temps de se désarçonner et de travailler sur de prendre des contre-pieds tout le temps pour pas s'endormir dans un travail. J'ai monté Fedo il y a 30 ans, presque 30 ans, 20 ans, La Puce à l'Oreille, au Théâtre de la Colline et à Rennes. Et j'avais adoré ça, mais un peu pour les raisons pour lesquelles j'aime Rambert, c'est-à-dire la précision de la langue, l'intelligence du théâtre, finalement. J'aime cette idée de travailler Fedo à l'endroit du vertige, finalement, c'est-à-dire pas du tout chercher à faire entendre que Fedo, c'est sérieux et tout ça, mais essayer de voir qu'est-ce qui trace dans une forme de vertige du théâtre. Mmh. Et l'Hôtel du Libre-Échange et La Puce à l'Oreille, je dirais, sont deux machineries théâtrales assez dingues. Donc, je me demandais aussi, parce que le théâtre va pas très très bien aujourd'hui, on va dire, théâtre public et tout ça, s'il était encore possible de monter des spectacles avec 14 acteurs sur le plateau, tout ça, bon, bah là, on y arrive, donc c'est plutôt une bonne chose, ça va faire travailler une troupe de gens, il y aura une grosse tournée, voilà.
Tout engageant. Stanislas Nordet, merci pour cet entretien. Et nous invitons tous nos auditeurs à venir voir ou revoir Clôture de l'amour au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 11 novembre. Merci beaucoup.
Merci.
Pardon, de Vincent Madame, qui sort aujourd'hui son nouvel EP maintenant. Nous allons vous parler donc chronique et nous allons vous parler dans l'ordre de oiseaux. Nous allons vous parler également, pardon, j'ai un petit trouble parce qu'on a changé l'ordre, on fait des folies ici sur Radio Campus. Oiseau, c'est de Anna Nosière, c'est ça ? Ensuite, en deuxième chronique, on vous parlera de Rush, de Mette Ingvardsen, pardon. Dans trois, on parlera de Strano.
Du cirque Trottola
et enfin avec Didon et Aîné.
Il s'agit d'une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Et tout d'abord, on t'écoute, Michel, avec Oiseau.
Eh bien oui, donc je suis allé au théâtre Paris-Villette hier en fait, voir la dernière représentation dans ce théâtre de Oiseau, mais qui va donc encore se jouer pour 13 représentations en Ile-de-France. Donc ça sera sur le site pour aller voir les autres représentations. Alors donc Oiseau, c'est une pièce qui tourne autour du rapport que les enfants, donc ça peut être les jeunes spectateurs comme les protagonistes, entretiennent avec la mort. L'histoire, c'est essentiellement celle de Mustapha qui a perdu son papa et de Pamela qui a perdu son chien. Deux enfants qui vont se soutenir en retrouvant leur disparu, en leur parlant dans des rêves ou dans un au-delà, en les reconnaissant dans un oiseau ou en tentant d'organiser une fête pour les célébrer. Leurs initiatives et l'engouement qui naît auprès des autres enfants n'est pas du tout du goût du personnel scolaire qui tente de les stopper avec peu d'empathie et une certaine rudesse même. Car il n'est pas possible de faire entrer le drame à l'école, de créer une ambiance mortifère. Il faut faire son deuil, comme on dit, mais en silence. Donc la mise en scène est vraiment généreuse, je dirais fluide et délicate, c'est ce que j'ai trouvé comme adjectif. Mais c'est vraiment très beau, avec des jolis inserts vidéo des enfants de l'histoire et un thème musical unique, mais décliné en plusieurs versions. Donc pour ceux qui se souviennent, peut-être c'est un groupe qui s'appelait Black en 1986 qui avait fait un truc qui s'appelle It's a Wonderful, Wonderful Life. Non, bon, je ne sais pas si quelqu'un qui connaît.
Si.
It's a Wonderful, Wonderful Life. Voilà. Donc les deux comédiennes qui jouent ont toutes entre 55 et 60 ans, qui campent Mustapha et Pamela, mais aussi les autres personnages, hein, comme la directrice Revêche, la tante de Pamela qui soutient avec force les enfants, etc. Leur interprétation est sensible et en même temps vive, et ça nous donne une bonne bouffée d'air frais. On peut dire que la pièce quand même leur doit beaucoup. Donc je vous recommande cette pièce dont le thème est quand même assez original, et je ne doute pas que vous pourrez verser une ou deux petites larmes, comme j'ai pu le voir autour de moi, et même sur moi. Cela dit, je ne peux pas dire que j'ai été totalement conquis, mais c'est vraiment un petit bémol, c'est pas si méchant que ça ce que je vais dire. C'est essentiellement parce que si le thème de la mort, qui est le fil conducteur de la pièce, est bien présent et qu'elle touche bien des enfants, je suis d'avis qu'on s'en écarte quand même sérieusement, parce que la pièce se concentre sur l'opposition entre la liberté de deuil des enfants et ce qu'ils veulent mettre en place, et l'intransigeance de l'institution scolaire, comme je l'ai précisé juste avant. L'école ici ne cherche qu'à rétablir un ordre, celui où les enfants devraient se conformer au silence, à la retenue et au deuil bien fait. On se retrouve donc dans une atmosphère proche de celle du film de Peter Weir, Le Cercle des Poètes Disparus. Les enfants spectateurs adhéreront sans nul doute à une lutte contre l'injustice. Alors j'ai lu qu'Anna Rosière veut nous montrer des enfants qui s'insurgent contre la tristesse, le silence et la peur que les adultes convoquent quand la mort a fauché. Et le pari est gagné d'une certaine manière. Ces sentiments semblent se perdre dans cette pièce qui atténue très sensiblement la douleur des enfants et la difficulté qu'ils auraient par exemple à la partager. Je ne dis pas que ces questions sont absentes de la pièce, mais elles restent en arrière-plan, parce qu'elles sont d'une certaine manière résolues. Mustapha a vu son père dans l'au-delà, ou dans ses rêves, on ne sait pas vraiment, et il vit une sorte d'émulation collective autour de la fête que les enfants mettent en place. Bon, par exemple, moi je m'étonne aussi que Mustapha trouve recevable que Pamela soit aussi malheureuse que lui pour la mort de son chien. Je ne suis pas convaincu que ça se passerait vraiment comme ça, et le fait que ça perde un peu en crédibilité d'une certaine manière, eh bien, réduit complètement la force de ce que représentait la mort chez un enfant dans l'aspect douleur. Donc j'ai cru comprendre qu'Anna Rosière cherchait à ne pas gommer la complexité émotionnelle des enfants, mais les embarquer dans un spectacle où la mort règne est un premier pas dans ce sens. Donc c'est, en soi là j'adhère quand même en bonne partie à la pièce, mais il y a à mon avis un déroutage qui affaiblit le propos et la force. Voilà, qu'est-ce que t'en as pensé toi, Julien, qui l'a vu aussi?
Alors, moi j'ai... Pardon. J'ai trouvé comme toi qu'il y avait ce côté... ce que moi j'appellerais finalement le petit Nicolas et la mort.
Ouais.
Il y a cette ambiance du petit Nicolas, ces enfants qui sont très caractérisés, l'institution qui est quand même assez caricaturale. Bon, à la limite, pourquoi pas, parce que ça permet d'avoir un spectacle qui est, alors l'expression est un peu galvaudée, mais qui est à hauteur d'enfant, sans être pénible pour nous adultes. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé que... effectivement, il y avait quelque chose de très bien fait dans ce jeu à deux actrices campant une grande galerie de personnages. Alors, moi, mon bémol, il est sur le choix final d'écriture, c'est-à-dire le fait tu l'as dit, hein, on est dans une pièce qui reste très majoritairement dans le domaine du fantastique. C'est-à-dire on est dans l'oscillation entre l'explication rationnelle et l'explication merveilleuse des enfants qui effectivement sont capables d'aller discuter avec les morts. Je trouve que à la fin, c'est dommage d'avoir tranché sur l'angle du merveilleux, surtout dans un moment où, pour moi, on est dans une époque où on a un peu une offensive d'un relativisme face à la science, et je trouve que le théâtre doit jouer son rôle en affrontant des fois le temps, et là je trouve qu'il au contraire se complaît dans l'explication merveilleuse. Mais voilà, c'est là que je relativise mon plaisir quand même de cette pièce.
Bon, merci beaucoup Julien pour ce retour. On va passer à la chronique sur Mette Ingvartsen. Rush, Thomas, on t'écoute.
Oui, nous sommes allés voir cette pièce ensemble. Oui. Mette Ingvartsen nous propose de retraverser une dizaine de pièces qu'elle a créées en 20 ans de carrière. Au plateau, l'une de ses interprètes fétiches partage avec nous le cheminement de chaque extrait, sa place dans l'œuvre, ce qu'il a fallu pour le produire. Une seule interprète pour des pièces de groupe. Et une évocation en lieu et place de la performance. Ici, on imaginera plutôt qu'on ne verra. C'est très habile ce positionnement. Habile parce que la danse bute toujours sur son archivage. Sur comment représenter des représentations qui ne peuvent plus se faire, comment rendre présent des questionnements du passé qui pourraient se poser encore aujourd'hui mais autrement. Sans apparente partition ou texte, la danse s'est souvent pensée comme un art vivant sans mémoire. Ici, l'archive est bien vivante. Pas de captation, pas un remontage à l'identique comme s'il s'agissait de faire patrimoine, naphtaline et fanservice à la Pinabauche. Non, ici, c'est une pièce vivante. C'est habile et astucieux même, parce que forcément, notre imagination nous frustre, mais nous permet aussi d'adhérer. Ça ressemble au spectacle rêvé de Joris Lacoste qui nous demandait dès le début de fermer les yeux et d'imaginer ce qui se passait sur scène, en suivant les suggestions d'un acteur. Et le caractère anecdotique parfois de ce qui se dit autorise ici une plus grande proximité avec le public. Cela remet de l'humour, de l'humain, là où on ne voyait que la performance, du conceptuel. Apprendre que les interprètes nus, avant d'entrer en scène, se soulagent une dernière fois derrière le rideau juste avant son ouverture, ça fait sourire, ça rend proche, presque intime. Surtout, ça permet d'indiquer le point de vue, celui de l'interprète. Ce n'est pas une chorégraphe qui revisite son œuvre, c'est une des danseuses qui l'a rendue possible. Car cette pièce est clairement un hommage aux danseurs, signalant leur participation active au processus créatif. Sans eux, il n'y aurait rien. Belle générosité de la proposition qui rencontre toutefois deux écueils. Tout d'abord, celui-là même de l'archive, elle sonne comme un bilan, un état des lieux de la danse contemporaine aujourd'hui. Il y a eu un temps où l'on pouvait faire des pièces de groupe. Aujourd'hui, les moyens de production sont si réduits qu'on ne peut plus envisager qu'un seul interprète en scène, sans costume, sans décor. Alors on peut faire un peu de participatif pour habiller la scène à peu de frais. On peut aussi faire danser de simples couvertures de survie, réduction ultime des coûts. Mette Ingvartsen nous dit que ces pièces ne seraient plus véritablement possibles aujourd'hui, ce qui peut plonger dans une certaine mélancolie. Deuxième écueil, celui du sens. Comment donner du sens à une suite d'extraits d'œuvres disparates? C'est dangereux, comme s'il y avait véritablement un fil rouge, ou alors assumer que parfois le fil se distende, qu'on le perde. Rush s'en sort terriblement bien, peut-être aussi parce que le CND est à ce moment-là animé d'une joyeuse énergie, celle de Camping, sa manifestation à destination des étudiants en danse, un vent de fraîcheur dans la salle qui déjoue la mélancolie, une agitation bienveillante qui redonne tout son sens à une œuvre généreuse et jouissive. Moi, j'en redemande. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Hélène ?
Oui, c'est vrai qu'on était dans un bouillon de hormonal, un bouillon de fluide, un bouillon de toutes ces énergies là. Écoute, ouais, figure-toi que je suis toujours un petit peu sonnée, même deux semaines après, un peu circonspecte. En fait, je sais pas trop, la critique et la spectatrice est un peu perdue, flirtant avec l'archive, comme tu le disais, l'entertainment, le labo ouvert, l'immersif, le participatif, une acuité analytique. On est quand même face à un objet d'une haute hybridité, hein. C'est un peu difficile à saisir, c'est pour ça que je suis toujours un petit peu sonnée d'ailleurs, mais voilà, on échappe complètement, ça échappe en fait au temps réel de la représentation. Alors que la chorégraphe nous installe dans un rapport d'une frontalité sommaire et qui est efficace, qui s'adresse au spectateur, dans un dialogue, dans une simplicité un peu déconcertante, voilà que d'un coup, elle nous file entre les doigts, elle va laisser à l'interprète le soin de glisser dans une incarnation d'une grande physicalité. Ou bien, comme tu le disais au début, on est un peu saisi par l'aspect trivial de sa description minutieuse, hein, de ce fameux moment d'avant-représentation, et nous voilà quelques minutes après spectateur, d'un corps qui se métamorphose en marionnette humaine, avec donc le port de ce masque qui transforme tout son rapport à son corps. Donc voilà, on est vraiment dans une temporalité à la fois du spectaculaire et à la fois une temporalité reculée, un peu objective. Et en fait, cette métamorphose constante du temps, du corps, du propos même, qui voyage du récit mémoriel au temps sans condition, du temps présent, du temps qui se joue là, c'est un vrai labyrinthe, c'est une espèce d'exercice de voltige chorégraphique. Comme s'il y avait, comme en formation musicale, le mode dorien, le mode phrygien, moi là j'imagine de voir une autre manière de faire danse, un autre mode de faire danse, avec une inscription dans une autre mémoire, dans une autre manière de faire histoire. Donc il y a comme un affinage à travers le temps d'ailleurs qui me presse, je vais peut-être synthétiser l'idée globale. Ce que je veux dire, c'est que je la remercie de mettre en fait au monde une autre manière de faire histoire dans la danse, de pas être dans un folklore scientifique qui ferait du corps un mausolée de la danse, mais bel et bien en rendant au corps sa puissance de dédoublement, tout à la fois acteur du vécu et maître de ce qui l'agit. Voilà, qu'elle soit ici remerciée pour cet aspect novateur. Et on va donc passer dans le troisième temps de chronique avec Strano, Julien. On t'écoute.
Alors, Strano, il faut quand même savoir que quand j'ai commencé cette émission il y a... faire 3 ans. Dès le début, j'ai entendu parler de la compagnie Trotola comme étant une merveille à découvrir. Eh bien, effectivement, au bout de 10 minutes, j'étais conquis. C'était vraiment quelque chose. C'est un spectacle qui est... Alors, qu'on a vu à l'Azimut, à l'espace cirque de l'Azimut, où je dois bien le dire, c'est quand même un endroit assez magique, puisque tout ce qu'on a vu là-bas, jusqu'ici, en tout cas moi, tout ce que j'ai vu là-bas, à chaque fois, j'étais ravi. Et là, encore une fois, je suis ravi. Alors c'est à voir bientôt au 104, allez-y avec vos enfants, allez-y entre adultes, laissez vos enfants tout seuls, faites comme vous voulez. Mais en tout cas, ça marche pour des enfants, ça marche pour des adultes, il y a des moments de surprise, il y a des moments de beauté. Alors on est plus dans la construction d'un univers que dans une réelle narration, c'est plus une galerie de personnages, d'archétypes. C'est vraiment le cirque contemporain avec ce qu'il a, moi, je trouve d'intéressant parce qu'il joue avec les codes, notamment quand un échassier, au lieu d'être au sol, voyage au plafond, qui joue avec le décor qui lui-même bouge pendant le spectacle. Et alors, chose particulièrement réussie chez eux, et je pense que dans ce que j'ai pu voir en cirque pour l'instant, c'est eux qui l'ont réussi le mieux, c'est d'intégrer la mise en place du décor dans le spectacle lui-même. Ils jouent vraiment pendant qu'ils mettent en place le décor. Le décor s'installe dans le jeu. Et ça, c'est vraiment très réussi. Alors, un moment qui est très réussi, moi, qui m'a fait souffrir, parce que j'ai eu pendant longtemps un piano chez moi, et les voir martyriser un piano, après avoir entendu pendant des années, attention, là, je les voyais martyriser. Alors, ça, c'est pas mal, c'est quand même... Dans le moment qui est, pour moi, le bémol du spectacle, je trouve que ce moment de clown, pas parce qu'il martyrise le piano, mais ce moment de clown, je trouve casse le rythme. Qu'il retrouve après, une fois cette interlude passée, c'est vraiment là-dessus seulement que je les trouve un peu légers, parce que tout le reste est vraiment d'une grande beauté. La scène finale, je vous invite à la découvrir, elle est vraiment sublime. Alors je raconte pas non plus le petit début, la petite surprise de lancement. Donc voilà, c'est pour moi un spectacle à aller voir.
Merci Julien et Alice, donc tu as été également découvrir cette pièce.
Alors oui, alors pour moi le cirque c'est plus qu'un spectacle, c'est une façon de vivre, d'expérimenter l'utopie, la différence d'être au monde. Le cirque c'est de la générosité, donner confiance en l'autre qui ne nous laissera pas tomber au fil des acrobaties et des portées, enfin on l'espère. C'est bien cela dont il s'agit dans le spectacle Strano, des envolées de corps et de musique. Impressionné aussi comme Julien par les échasses en acier, comme des croches qui s'accrochent aux hauteurs du chapiteau. Strano, ça veut dire étrange et le spectacle porte bien son nom. Le numéro du gros lapin qui sort comme par magie du présent, c'était merveilleux aussi ça. Ça pourrait être un poème surréaliste de Jacques Prévert. C'est étrange d'être ange, dit l'ange, c'est étrange d'être âne, dit l'âne, et hop, il s'envole. Là, dans Strano, nous avons deux clowns. L'un s'apparente au clown rouge, la brute épaisse, et l'autre au clown blanc, le mélancolique. Comme dans la tradition du cirque, ces deux êtres étranges font leur numéro avec tant de chaleur humaine qu'on pourrait les croire échappés d'un film de Fellini. Là, ils sont bravant la brutalité du monde à coups de haute voltige. Lorsqu'un tonnerre d'applaudissements retentit sous ce petit chapiteau, cette bulle de poésie reste tête en l'air, l'air de rien. C'est aérien, c'est merveilleux, allez-y.
Oh bah merci beaucoup, c'est vrai que ça donne très envie, Alice. Et t'as été également découvrir, il me semble, Didon et Aîné. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
Oh là là.
La pièce de Blancalli à la Villette, mais oui. Grande chorégraphe qui vient de prendre la direction, on t'écoute.
C'était un grand moment. On y est allé, enfin tu y es aussi allé, Michel?
Y est allé, oui. Mais j'en parlerai après toi.
Mais oui,
oui,
oui, on t'écoute. D'accord. Alice.
Alors, dans l'ordre des choses, alors,
absolument.
Didon et Aîné, vraiment ému du début à la fin, ce spectacle a eu l'effet d'un ensorcellement délicieux. Je n'ai rien vu venir du tragique, tant la grâce donnait une impression de joie partagée par ce cœur, une douzaine d'interprètes sublimes. Cet opéra repose sur une musique sorcière au pouvoir évocateur. Au commencement, les danseurs jouent avec des instruments invisibles. Le plateau noir et sobre, sans décor, ni musicien présent. La noirceur du sol révèle les autres couleurs projetées sur une toile de fond blanche, façon tableau de peintre, changeant au gré du récit. Modèle vivant, les interprètes se dénudent progressivement, sculptés par une liberté de mouvement sans pareil. Le vide offre tout l'espace à l'expression des matières, des couleurs, des éléments. L'eau vient glisser aussi sur le plateau et devient ce partenaire de jeu, laissant libre cours à la sensualité et à l'érotisme, on peut le dire. Le chœur danse ce ballet sorcière, chaque interprète se donne la main, change de partenaire, joue simultanément ou en décalage les rôles de Didon et celui d'Aîné. Et cette démultiplication de personnages nous plonge comme dans un poème saturnien, dans un rêve étrange et pénétrant d'une femme qui n'est à chaque fois pas tout à fait la même. Le final bouleversant est incarné par une danseuse détachée du cœur dont les gestes sont dictés par la passion du désespoir. La trahison agit comme un poison, le cœur s'éloigne, les gestes sont impulsés par la petite mort et le tragique est de n'avoir d'autre choix que celui de mourir.
Oh. Ouais. Bah,
bon bah on t'écoute Michel.
Ouais bah moi je dois te dire hein, c'était de toute beauté hein. C'est quand même des gens, ils dansent très bien, c'est des danseurs, ils ont suivi une formation pendant des années hein. C'est un métier très difficile et il y en a peu qui réussissent à percer ouais. Hein. Non. Et il faut voir comment ils sont synchronisés. Puis pendant une heure et demie en plus.
Fort,
mais il faut dire qu'ils ont un physique exceptionnel aussi.
Ah bah d'accord.
Non, et puis il y a la musique de Purcell. Bon, c'est quand même évidemment un opéra baroque avec du clavecin, etc. Mais bon, c'est pareil, ça vous dit. Hein, il n'y avait pas les musiciens, mais c'était des années de conservatoire derrière. Donc il faut faire plusieurs heures par jour, week-end compris. Bon, il faut avoir du talent, quoi. Et enfin voilà, ça c'est à peu près ce que ma grand-mère, Monique, aurait dit. De ce qu'on a vu, c'est-à-dire que c'est je dirais, elle aime bien l'ordre, ma grand-mère, elle aime bien quand la bibliothèque rose, ils sont rangés les livres par ordre alphabétique, et j'y ressens la même chose, c'est-à-dire que c'est une esthétique de l'ordre, et par contre c'est pas du tout une esthétique de l'émotion, pour ma part, je ressens rien, et je sors de là, je comprends pas,
mais il y a une émotion esthétique,
non, une émotion qui pour moi est dans l'ordre, dans le fait que tout est bien fait, c'est comme ça que je ressens le truc. C'est-à-dire que finalement, oui, bien sûr, on voit ce qui veut être dit, ce qui voudrait être passé, mais c'est très symbolique, c'est très tout ça, et c'est très peu incarné. Moi, je suis très sensible à la danse, quand j'en vois et que ça me plaît, j'en ai des émotions vives dans le corps. Quand je vois, je pense que la forme du ballet, pour moi, est un peu compliquée parce qu'elle favorise un peu cet ordre-là. Mais là, c'est. Je suis là, je sors de là, mais c'est pas possible, je suis vraiment complètement.
Tu n'as pas été ensorcelé.
Oui, bah ça, c'est mon plaisir. Et donc, j'y arrive pas. Même bien sûr, je reconnais que tout est bien fait, c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître que tout est bien fait, bien agencé, propre, tu vois. Mais quelque part, c'est ça. C'est pour moi, c'est un spectacle de propreté et d'ordre. Ça me parle pas.
Un spectacle de propreté.
Je me demandais, Blancalli, enfin, ça me dit, c'est pas là celle qui faisait les danses pour Daft Punk?
Oui, non, exactement.
Dans,
oui,
Around the World,
je Around the World, oui, c'est elle qui avait fait ça aussi. Oui.
C'est elle qui a fait ça?
Oui, c'est elle.
Est-ce que tu avais senti un peu d'émotion?
Non, j'avais pas pensé que je devais. je m'étais pas mis dans la peau de quelqu'un qui devait ressentir une émotion en regardant le clip.
D'accord, mais c'est quand même problématique parce que on n'a pas besoin de se mettre dans la peau de quelqu'un qui ressent une émotion.
Non, bah, ça m'est pas venu automatiquement.
Donc oui, d'accord, c'est elle. Bon, c'était juste une question. Je retourne dans ma cage de verre.
Merci Guigui pour ton intervention hautement philosophique. On a terminé pour les chroniques et on va pouvoir dire aussi que nous n'avons pas pu le voir, mais toujours à la Villette, là où il y avait Blancalli. 14 novembre au 1er décembre. On vous conseille Nos Matins Intérieurs. De quoi s'agit-il? 10 jongleurs et jongleuses du collectif Petit Travers dévoilent leurs pratiques et parcours singuliers au fil d'une pièce chorale mise en musique par le quatuor Debussy. Un autoportrait collectif aux allures de ballet, a priori aussi parfaitement réglé. Serait-ce la signature de la Villette? Alors, merci beaucoup. Cette émission touche maintenant à sa fin. Nous avons reçu Stanislas Nordet pour Clôture de l'amour au Théâtre de l'Atelier, qui se joue jusqu'au 11 novembre. Et nous vous avons parlé en chronique donc de Didon et Énée, de Blancali à la Villette, et qui est donc malheureusement terminée. Pour ceux qui aiment l'ordre, désolé. Nous avons également parlé de Rush de Mette Ingvardsen au Centre National de la Danse. Nous vous avons parlé, pardon, je redis, de Oiseau de Anna Nozière au Théâtre Paris-Villette et que vous pourrez avoir la joie de retrouver en banlieue parisienne, dans la périphérie, à plein d'endroits. Regardez sur le site internet. De novembre à février, vous avez plein de dates. À Maison-Alfort, à Pantin, à Vitry-sur-Seine, à Nanterre et au CDN de Sartrouville et des Yvelines. Et nous avons également parlé de Strano, du cirque Trottola, donc le cirque Trottola de Bonaventure Gacon et de Titoun, qui était à l'Azumite à l'Antony. Et pardon, là je peux aussi vous annoncer de futures dates au 104, par exemple, du 3 au 21 décembre, et au Théâtre Sénart à Lieusaint, merci beaucoup, du 20 au 24 mai 2025. Faut pas froncer les sourcils comme ça, on passe un bon temps autour de la culture, c'est beau la vie. Et donc on est hyper heureux de vous retrouver pour la prochaine émission le 2 décembre prochain. Ça va être bien, ça va être chaud avec les Noëls qui arrivent et tout, venez. Et c'était une émission...
C'est pas le sacre de l'empereur? Non.
Le 2
décembre. Si.
Bah, il est mort.
Ah, c'est ça.
Et donc, évidemment, on n'est pas seul, on est ensemble pour faire une émission absolument formidable, qui est donc une émission de Camilla Pizzichillo. Et donc présenté par Thomas Adam Garnin, présenté par Hélène Belver, réalisé par Guigui, avec la participation d'Alice et de Michel Carton et de Julien. Merci beaucoup pour votre écoute. Allons au spectacle. Et je vous souhaite absolument une magnifique soirée en compagnie de Radio Campus Paris, à l'écoute des futures missions qui viennent tout de suite à 21h dans quelques secondes. Tic-tac, tic-tac.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Ciao.